Nahiri Boudé, c'est un plaisir de vous retrouver avec un sujet que vous avez choisi et un sujet qui, je dirais, interpelle peut-être vraiment tout le monde.
Oui, aujourd'hui, je souhaitais que l'on parle de beauté, ce qui nous amène finalement à parler peut-être de deux choses, de la beauté corporelle, évidemment, on y pense tous assez spontanément, mais aussi la beauté de l'âme, si tant est qu'on puisse faire une différence entre le corps et l'âme, mais en tout cas ce qui vient nous bouleverser dans ce que les autres donnent à voir de leur intériorité et de leur extériorité, donc avec leur corps.
Est-ce qu'on peut être beau sans se trouver beau ?
C'est une excellente question parce que je reçois beaucoup de personnes au cabinet. Je pense à des couples avec des femmes qui souvent me disent qu'elles ne se trouvent pas belles ou plus belles depuis qu'elles ont gagné en âge ou depuis qu'elles ont eu des enfants ou pris du poids. Et leurs compagnons qui disent « mais moi je la trouve toujours très belle, je la trouve toujours désirable, je ne comprends pas comment elle peut ne pas se trouver belle alors qu'elle est si jolie, qu'elle s'entretient, etc. » On peut questionner le terme de « s'entretenir ». Moi, je trouve que ça peut être problématique parfois, mais en tout cas là, je parlais de propos que je peux entendre au cabinet. Donc en effet, moi j'entends pas mal de personnes qui peuvent dire, souvent des hommes qui parlent de leur compagne et qui disent « non mais ma compagne est objectivement belle », sauf qu'elle ne se trouve pas belle. Et je pense que ce qu'il y a à entendre aussi dans le discours de ces femmes, c'est pas forcément qu'elles ne se trouvent vraiment pas belles, parce que je crois qu'à certains moments on peut aussi se trouver beau, c'est-à-dire rayonnant, charmant, à l'aise dans certaines situations ou mis en valeur par certains vêtements, bijoux, coiffures ou ce que vous voulez, et ne pas se trouver belle, par exemple, par rapport à des critères esthétiques de beauté valorisés dans notre société.
Est-ce qu'à ce niveau-là, la beauté intérieure compte ? Est-ce qu'elle reflète sur la beauté extérieure et vice-versa ?
Ce qu'on dit souvent, c'est que les personnes qui ont l'air à l'aise avec elles-mêmes sont plus rayonnantes et dans un sens sont belles. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez visible souvent chez les hommes charismatiques. C'est-à-dire que assez souvent, les femmes vont pouvoir parler d'un homme en disant que peut-être qu'il a un petit peu de surpoids, peut-être qu'il n'a pas forcément des traits très charmants, mais qu'il a une attitude, qu'il a ce que beaucoup vont appeler un charme, c'est-à-dire une énergie aussi vitale qui est perceptible et qui donne envie d'apprendre à connaître la personne et qui du coup nous fait aussi la trouver belle. Je crois que c'est peut-être différent au niveau de la perception esthétique du corps des femmes parce que l'industrie cosmétique vend depuis longtemps quand même des produits destinés à améliorer le corps des femmes et donc c'est difficile peut-être pour beaucoup de femmes d'avoir cette approche-là d'elles-mêmes, c'est-à-dire de davantage penser en termes d'énergie qui les amène à rayonner et à être belle en ce sens. Peut-être que les critères en ce qui concerne le corps des femmes sont quand même plus définis. Beaucoup parlent par exemple du fameux dad bod, le dad body, donc le corps des papas, des hommes de 30, 40, 50 ans qui peuvent avoir un petit peu de ventre par exemple et qui sont malgré tout trouvés charmants. Tandis que ce qui continue, si parfois on regarde un petit peu la presse people, certaines femmes de plus de 50 ans que je trouve moi-même très belles hein, comme Salma Hayek ou Jennifer Lopez sont quand même célébrées non pas pour leur corps de femme de 50 ans mais au contraire le fait qu'elles arrivent à maintenir une esthétique corporelle de trentenaire ou de quarantenaire alors qu'elles ont plus de 50 ans, justement.
Dans le couple, est-ce que les critères de beauté doivent converger à un moment donné ou on peut avoir des visions différentes ?
Vous voulez dire, est-ce que parfois on peut trouver l'autre moins beau ? On peut avoir des opinions différentes, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir par poser problème. C'est important. Je crois qu'on puisse à la fois... En fait, je pense que la question de la beauté, c'est déjà est-ce que une question de valeur. Est-ce que moi, je trouve que j'ai de la valeur ? Et donc, est-ce que moi, je pense que je suis digne d'être aimée ? Et en ce sens, peut-être que je peux me trouver beau, d'une manière générale, c'est-à-dire beau côté âme et beau côté corporel. Et parfois, justement, on peut aussi se perdre là-dedans et dépenser une énergie importante dans tout ce qui est corporalité, négliger du coup les autres aspects et finir par être un petit peu vide, non pas parce qu'on est bête, enfin, je veux dire, je ne suis pas du tout en train d'être critique vis-à-vis des personnes qui dépensent beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent dans ce qui appartient à l'esthétique, parce qu'on vit dans une société qui valorise énormément cela, mais c'est plutôt que si on néglige d'autres domaines, à ce moment-là, on épuise un petit peu ce qui fait aussi notre unicité. Et pourtant, ça participe aussi à nous rendre beaux, désirables et dignes d'être aimés. Mais il arrive en effet aussi que les corps changent et que le corps de notre partenaire nous semble moins beau que lorsqu'on a rencontré son partenaire. Et des fois, ça peut être vraiment compliqué parce que ça vient jouer sur le désir. Du coup, on va aussi peut-être moins faire de compliments à l'autre, qui par ailleurs a besoin d'être valorisé, qui peut aussi ne pas s'être forcément rendu compte du fait que son apparence corporelle a changé. Et à cet endroit, ça vient abîmer, c'est vrai, les relations. Alors je ne dis pas forcément qu'il faut être beau pour avoir un couple de qualité, pas du tout. Par contre, c'est important soi-même de se trouver beau, je crois au moins au niveau de l'âme, c'est-à-dire de cultiver des savoir-faire et des savoir-être dans des domaines qui font qu'on est des êtres uniques et riches, et de prendre soin de notre apparence corporelle, parce qu'on vit, comme on disait tout à l'heure, dans une société qui valorise l'esthétique, et je crois que refuser tout ça en bloc, c'est très courageux. C'est très transgressif et donc par là, j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est transgressif. Mais par contre, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous coupe des autres, parce que les autres qui font partie de notre société accordent aussi une importance à l'esthétique. Et ce que j'entends par esthétique, ce n'est pas forcément des traits corporels, mais c'est aussi la mise en valeur de ces traits corporels. Par des vêtements bien coupés, colorés, l'usage de bijoux pour les femmes ou de maquillage. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça nous rend plus beaux, c'est que ça donne l'idée d'un corps dont on a pris soin pour le regard de l'autre aussi, autre qui peut se sentir flatté, qu'on ait pris ce soin-là pour lui.
Est-ce que la sexualité passe par la beauté ?
Oui, je crois que oui. Je crois que c'est important en fait d'être séduit par son partenaire, d'être surpris. On en avait déjà parlé de la surprise dans le couple, mais d'être séduit par son corps, oui, parce que du coup on a envie de pouvoir caresser ce corps-là, on a envie de pouvoir l'embrasser, on a envie de presser son propre corps contre le corps de l'autre. Donc le fait de pouvoir admirer le corps, et là je mets bien l'accent sur le corps, mais c'est important parce que ça nourrit le désir. Et évidemment, c'est important aussi de pouvoir être séduit par la manière dont l'autre, donc le partenaire, met son corps en action, c'est-à-dire sa manière de bouger, de danser, de s'asseoir, de regarder, de réfléchir, tous ces petits détails qui rendent le corps vivant. Donc le but n'est pas d'aller vers une seule appréciation d'une beauté morte, quelque part figée, un petit peu comme on peut le voir sur des photos Instagram, même si c'est vrai que ça participe finalement quand même de notre définition de ce qu'est la beauté maintenant. Et en même temps, c'est important de pouvoir cultiver un regard qui soit neuf, c'est-à-dire en regardant le corps bouger, et de nous interroger à propos de la manière dont ce corps en mouvement nous séduit.
Donc la routine n'entretient pas la beauté. Nous sommes à peu près d'accord là-dessus ou pas ?
Oui, oui, et en même temps peut-être qu'on a besoin de routine aussi pour pouvoir cultiver sa beauté. Dans le sens où des routines peut-être sportives ou des routines de sommeil, des routines de, par exemple, se crémer après la douche, mais là, c'est une petite blague. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire, c'est-à-dire le fait de considérer, comme on l'a souvent dit, que les choses vont de soi, qu'on n'a pas à lutter pour, que c'est une évidence parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Ça, évidemment que non. Bien sûr qu'on a un attachement profond qui naît pour les personnes avec lesquelles on évolue depuis un certain temps dans une relation durable. C'est important, évidemment, de pouvoir trouver en son partenaire de vie un meilleur ami ou une meilleure amie, quelqu'un en qui on a une confiance assumée. C'est l'une des plus belles choses que peut offrir le couple. Mais la désirabilité, en tout cas le désir, c'est quelque chose de tellement fluctuant. Et l'être humain étant attiré par la nouveauté, l'être humain qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire dans une société capitaliste qui conduit, voilà, enfin une société marchande où on cultive le goût pour les objets nouveaux, c'est tellement facile d'être plus facilement attiré par la nouveauté que du coup la seule chose, je crois, qu'on peut faire, c'est cultiver la nouveauté à l'intérieur du couple, c'est-à-dire se donner à voir régulièrement à son partenaire comme quelqu'un qui évolue, qui continue à se former, à imaginer, à entreprendre, à se renouveler, et aussi qui n'oublie pas qu'il a un corps, parce que le corps est notre support et un support qui véhicule aussi un imaginaire. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que même si on vit dans une société où on peut dire que chacun s'habille comme il veut, je dis souvent aux personnes avec lesquelles je travaille, je ne pense pas qu'ils m'en voudraient si je venais habillée en pyjama au cabinet, mais quand même, ça renverrait à un certain imaginaire, c'est-à-dire le monde de la nuit, du coucher, et on se dirait, mais pourquoi vient-elle en pyjama? Est-ce véritablement à propos? Donc ça veut dire que le corps transmet des messages et ceux qui habillent le corps aussi, et c'est important de pouvoir en être conscient. Parce que ça a un impact sur la perception qu'ont les autres de nous et que nous on a des autres.
Nairi Boudet, vous rencontrez énormément de personnes, que ce soit des personnes individuelles, des couples également. Est-ce que l'image et cette expression que vous connaissez sans doute, sois belle et tais-toi ou sois beau et tais-toi, existe encore?
Je ne suis pas sûre. Par rapport au sois belle et tais-toi, je rencontre beaucoup d'hommes qui me disent que. Alors, forcément, ils vont faire référence à des clichés, hein, qu'on peut aisément déconstruire, mais ils vont dire, moi, je ne veux pas d'une belle potiche qui n'a rien à dire. Je n'ai jamais entendu de femme me dire, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, qu'elle préfère un homme beau ou riche à un homme passionnant. Je crois que les personnes des deux sexes et des deux genres ont à cœur de trouver quelqu'un avec lequel ou laquelle il puisse y avoir une connexion émotionnelle. Mais il est vrai aussi que cette connexion émotionnelle va d'autant plus avoir lieu avec quelqu'un qui présente des caractéristiques physiques auxquelles on est sensible. Donc, pas forcément sois beau ou belle et tais-toi, mais quelque part, je crois qu'on pourrait quand même le dire, j'ai besoin que tu sois beau ou belle pour avoir un support à désirer et sur lequel projeter un imaginaire qui aussi va exister et du fait des fameuses caractéristiques dont on parlait tout à l'heure de la personne, c'est-à-dire ses centres d'intérêt, sa manière de les mettre en avant, sa manière de se mouvoir, mais sans faire non plus du corps un objet totem à investir absolument. Je pense que c'est là en fait tout l'équilibre à trouver entre le fait d'à la fois cultiver son corps et de cultiver son intériorité sans négliger l'un et l'autre, parce que notre corps, c'est ce qui fait notre matérialité. Et comme on le disait, ce support-là, c'est ce qui est accessible quand même en premier aux autres. Parce que on vit aussi dans une société qui met beaucoup l'accent sur le visuel, c'est-à-dire le sens de la vue est le sens le plus utilisé. Et donc on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Là où ça devient intéressant, c'est de pouvoir jouer avec, par contre. C'est-à-dire de voir comment on peut jouer avec le corps pour pouvoir envoyer des messages, ce qu'on fait peut-être un peu tous déjà avec notre manière de nous habiller.
Quand on ne se sent pas beau, comment faire pour séduire?
C'est une très bonne question. Des fois, j'aime bien regarder sur Google, j'aime bien regarder des forums pour voir un petit peu les questions que se posent les gens et du coup voir aussi quels sont les conseils. Parce que du coup, sur les forums, ce sont des gens qui vont donner un peu des conseils de bon sens et qui sont très beaux d'ailleurs. Ça va être déjà des conseils minimum, d'avoir un minimum d'hygiène, de gagner en confiance en soi, etc. Mais il n'empêche que quand on ne se sent pas beau, comment fait-on pour séduire? Je trouve que c'est hyper important. Et c'est là où en fait le fait d'être passionné va déjà aider beaucoup à devenir déjà remarquable, c'est-à-dire quelqu'un que l'on peut remarquer. Et je dirais que ce qui est important, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui peut faire notre beauté. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on vit, dans notre société occidentale, souvent ce sont certains corps plutôt européens ou très européens qui vont être valorisés. Et alors pour les personnes qui ne rentrent pas dedans, comment faire? Donc je pense que ça peut être aujourd'hui ce qu'on valorise, c'est-à-dire les personnes qui ont des cheveux bouclés ou épais. Aujourd'hui, on dit beaucoup des cheveux texturés. Ça va être de plutôt voir comment mettre en valeur cette chevelure bouclée ou texturée, plutôt que de les rendre raides, par exemple, pour essayer de coller un idéal de cheveux. Après, je ne suis pas du tout critique vis-à-vis des personnes qui raidissent leurs cheveux. Pourquoi pas, déjà pour changer de tête, ça peut être très rigolo, mais aussi c'est difficile d'entretenir des cheveux bouclés. Mais au-delà de ça, je pense que ça peut être intéressant corporellement de cultiver son unicité, aussi corporelle, c'est-à-dire si on a une mâchoire très définie, de grands yeux ou au contraire des petits yeux, de voir comment ces traits-là, plutôt que de les camoufler, comment on peut les mettre en valeur pour qu'ils viennent témoigner en fait d'une certaine typicité et nous permettent de nous sentir plus confiants avec des traits qui a priori aussi pourraient ne pas forcément être jugés beaux. Pour conclure, je pense que je vais citer ma mère, cette grande philosophe qui disait que chaque crapaud a sa crapote et qui voulait dire par là que il y aura toujours quelqu'un pour trouver que ce qu'on a à donner à voir corporellement ou intérieurement est beau. Parce que notre vision de l'esthétique, même si elle est clairement influencée par le marketing et la pornographie, pour autant, certains traits nous touchent davantage que d'autres parce qu'ils nous ramènent à quelque chose de notre passé, de nos parents d'ailleurs, de nous aussi. Et donc du coup, notre partenaire, c'est à la fois celui qui va être différent sur certains points, certaines choses que l'on n'aime pas chez nous. Et en même temps, ça peut être aussi quelqu'un qui nous ramène à nous, c'est-à-dire certains traits que l'on aime chez nous. Par exemple, je pense à une personne avec laquelle je travaillais qui me disait, moi, ce que j'aime beaucoup chez mon compagnon, c'est ses longues jambes, alors que moi, je suis toute petite. Du coup, l'autre devient plus facilement porteur de fantasmes, d'idéalisation et donc de désirs. Donc, chaque crapaud a sa crapote. Et puis la beauté, c'est quelque chose qu'il est important de cultiver parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui est à la fois, c'est vrai, un don de la génétique et en même temps quelque chose que l'on peut travailler afin de pouvoir voir comment, en tout cas réfléchir au support que l'on veut permettre aux autres de voir.
Nahiri, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous séparer. Nous nous sentons déjà beaucoup plus beaux. Hein. Merci, un grand merci d'être avec nous. Pour toute personne qui aurait envie de vous rencontrer, de vous contacter, nous allons rappeler vos coordonnées.
Eh bien justement, pour les personnes qui aimeraient peut-être apprendre à se sentir plus beau ou bien mieux exploiter la beauté qu'ils savent avoir en ressources à l'intérieur d'eux, elles peuvent me contacter au 07 49 92 31 65. Je reçois à mon cabinet de Gap, au 7 rue de la Clarée, et à mon cabinet de Sisteron, dans la zone commerciale, au 17 allée Desgenais.